je lis les pages d'un livre. Le monde est alors celui de ce livre. Le monde est dans le livre. Le monde est le livre.
Littérature sans frontières. Sophie Écoué. Romain Ferré.
Bonjour, je reçois cette semaine une des grandes voix de la scène intellectuelle et littéraire égyptienne, Gamal Ritani, auteur d'une quinzaine de livres, essentiellement des récits autobiographiques, des romans, des essais. Vous vous souvenez peut-être de son formidable livre des Illuminations, traduit en français en 2005, ou de l'épître des Destinées, ou encore l'Appel du couchant, paru aux éditions du Seuil. Tous des chefs-d'œuvre dans le monde et couronnés par de nombreux prix. Gamal Ritani est un conteur hors pair, doublé d'un poète, militant gauchiste. Il est aussi le fondateur de l'une des principales revues littéraires du monde arabe. Il a connu la prison sous Nasser, mais cela n'a pas empêché de dénoncer la corruption sous Sadat ou Moubarak. Il a été correspondant de guerre, en couvrant celle entre l'Irak et l'Iran dans les années 80. Et comme la majorité des Kairot, il était place Tahrir le 15 février dernier, date de la chute d'Hosni Moubarak. Gamal Ritani est passé à Paris il y a quelques jours, lors de la sortie de son nouveau livre, Muse et Égérie, un mélange de prose poétique et de témoignages personnels sur l'amour, la sensualité, véritable hommage aux femmes de sa vie. Et il est aujourd'hui l'invité de Littérature sans frontières. Gamal Ritani, bonjour.
Ahlan wa sahlan.
Comment allez-vous?
Gayed, alhamdoulillah.
Bien, bien, grâce à Dieu. Très bien.
Gamal Ritani, où étiez-vous le 10 février dernier?
Au Caire.
Au Caire.
Mais où au Caire?
Medine Tahrir.
Place Tahrir.
Qu'est-ce que vous faisiez?
Je faisais une espèce de procession jusqu'à Place Tahrir, un pèlerinage. Je m'y rendais régulièrement tous les jours. Mais malheureusement, pour des raisons personnelles, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu rester de manière permanente à Place Tahrir. Avant la révolution, tout était source de désespoir en Égypte. Il n'y avait pas de perspective d'avenir. Le président semblait rester ad vitam aeternam. Le régime était complètement sclérosé. C'était un cauchemar. Je répétais à mon épouse et à mon entourage, mes amis, pour plaisanter. J'ai vraiment envie de vivre une journée après le départ de Moubarak. Grâce à Dieu, aujourd'hui, 3 semaines se sont écoulées depuis.
On a vu sur des pancartes que brandissaient les femmes sur la place Tahrir. Moubarak voleur, et pourtant, quelques semaines avant, on disait que Moubarak était un pharaon. Comment en est-on arrivé là? Comment un pharaon est devenu un voleur?
Je suis très attristée de voir que Moubarak est qualifié de pharaon. Le pharaon symbolisait la clémence, contrairement au symbole d'autoritarisme de Moubarak. Il était très juste aussi, le pharaon, puisqu'il distribuait les eaux du Nil. Du temps des pharaons, on a édifié les pyramides, Karnak, les beaux-arts ont prospéré. Tout au long de cette civilisation qui a perduré 6000 ans, je n'ai jamais lu ou vu qu'un pharaon était un voleur. La tragédie de Moubarak est tout à fait différente. J'étais un correspondant de guerre au front pendant 6 ans. J'avais côtoyé de loin, si je puis dire, le président Moubarak. C'était un dirigeant assez discipliné, assez courageux. Il avait une bonne réputation. Il était au sein de l'armée à l'époque, et comme on sait, l'armée est connue pour sa discipline. C'est par hasard qu'il est arrivé au poste de vice-président de Sadat. Le président Sadat l'avait choisi parmi 5 candidats parce qu'il était le moins intelligent et n'était pas ambitieux. Quand le président Sadat l'a chargé de devenir donc vice-président, à l'époque, Moubarak, son plus grand rêve était de devenir ambassadeur. Donc il a été très surpris de se voir propulsé au rang de vice-président de la République. Dans les années 80, le président Sadat a été assassiné et donc Moubarak est devenu le président. Donc je l'ai beaucoup observé lors de conférences de presse et rencontré d'ailleurs lors de conférences de presse. Il était très fier de porter des costumes qui étaient fabriqués en Égypte. Il se montrait toujours intègre dans le sens, il avait une phrase très très célèbre où il disait que le linceul n'a pas de poche. Et il disait à l'époque également qu'il n'allait effectuer qu'un seul mandat. Au terme de ces 6 premières années, donc il a renouvelé son mandat. Au terme du second mandat, on parlait de son fils déjà et de passer le flambeau à son fils. Et c'est l'une des raisons principales de cette révolution. En même temps, il a permis à ses fils de travailler dans le domaine des affaires. On commençait à entendre parler de cette fortune colossale des Moubarak grâce au trafic d'armes, grâce au foncier, à l'immobilier. À une activité dans ce secteur. À l'époque, quand il a pris le pouvoir, il était interdit de publier des photos de sa femme. Parce qu'à l'époque de Sadat, son épouse Jihan était assez impliquée. Et cela a suscité des réactions assez négatives au sein de la population égyptienne. Petit à petit, son épouse a pris de l'importance et est devenue un personnage clé et important en Égypte. Moubarak, c'est le président qui a gouverné l'Égypte pendant la plus longue période dans l'histoire moderne de l'Égypte. Il a commencé faible et a pris de plus en plus de puissance avec le temps. L'État égyptien se résumait à sa propre personne. Son souci premier était d'amasser une fortune personnelle au sein de sa famille et à son clan très proche. C'est devenu une mafia.
Et là, en 2011, Gamal Ritani, c'est tout un peuple, donc toutes les couches sociales qui étaient dans la rue. Pour comprendre les choses, on va s'arrêter un instant sur ce processus, parce qu'en réalité, les premiers mouvements anti-Moubarak remontent dans les années 80, ce fameux mouvement Kifaya, ce qui veut dire « ça suffit ». Et c'est là, véritablement, le début de la contestation de l'ère Moubarak, une contestation massive. Et réellement, depuis combien de temps cette dynamique de la toile d'Internet a commencé à poindre en Égypte ?
Depuis 2 ans, j'ai commencé à entendre parler de jeunes qui s'activaient au niveau de l'Internet. Surtout après qu'un jeune ait été tué par la police. Il s'appelait Khaled Saïd. Il a été très sauvagement assassiné. Je dois reconnaître. Au départ, je m'étais dit, ce sont des jeunes qui sont en train de s'amuser sur le net. J'appartiens plutôt à l'ancienne génération. J'étais marxiste, j'ai été emprisonné sous Abdel Nasser, j'étais écarté sous l'ère de Sadat. De mon point de vue, la révolution doit naître grâce à des partis politiques qui la portent.
Et là, ce sont des jeunes qui ont fait la révolution. Où étaient les pères ?
Nous travaillons de manière secrète et de manière continue. Je considérais le net et Facebook comme une réalité virtuelle. Avec la révolution de janvier et grâce à cette jeunesse, j'ai réalisé que j'étais moi-même cette réalité en fait. En premier, un des officiers de la police anti-émeute, il a très bien résumé la situation en disant que dans les années précédentes, les manifestants étaient des personnes connues une à une par la police. Ils étaient surpris de voir de nouveaux visages, de nouvelles têtes et en nombre impressionnant.
Votre livre, Le récit de l'institution, Gamal Ritani, paru en France au Seuil en 2001, je crois, vous l'avez écrit longtemps avant, en 74, en Égypte, sous le règne de Sadat. Ce livre évoquait déjà à l'époque, d'une manière claire, un pays, l'Égypte, vendu grâce à un appel d'offres. En fait, Kamal Hitani, la réalité a dépassé l'imaginaire.
En réalité, pendant 50 ans, tous mes écrits peuvent s'inscrire dans le chapitre d'écrits révolutionnaires. J'ai écrit Al-Zaini Barakat, donc c'était contre l'oppression policière, en 1969. La censure sur Abdel Nasser était très dure. Mais j'ai pu contourner cette censure.
Alors comment on écrit sur la dictature alors?
J'ai écrit en fait le texte en utilisant la prose du XVIe siècle. À l'époque des Mamelouks. L'imaginaire remonte à cette époque. En fait, le système que je dénonce dans Zaini Barakat, le système d'oppression, est très moderne. Mais les faits, les événements ont lieu au XVIe siècle.
Ça veut dire quoi? Il faut être plus, deux fois plus intelligent que le système?
Quand le romancier est convaincu de son idée et veut faire passer cette idée, il n'y a rien qui puisse lui résister. Pour moi, je suis prêt à me sacrifier pour l'écriture, devenir un martyr de mes écrits. Peut-être la différence, ou ce qui me différencie des autres auteurs, c'est que je n'écris pas tout à un moment précis. Pour moi, ce n'est pas de la littérature. Dans la littérature, selon moi, on part d'un instant précis et ça devient quelque chose d'absolu. Les récits de l'institution vont évoquer la déliquescence de l'État. Je m'inspire, bien entendu, de l'ère Moubarak, mais en même temps, c'est un concept universel. D'où les différentes interprétations. Certains ont vu Dieu visé. D'autres ont pensé qu'il s'agissait de Suzanne Moubarak, qui était évoquée dans ses récits. C'était quelque chose de très dangereux pour moi.
Ça veut dire que la censure se faisait quand même avec une sorte de marge, un seuil de tolérance. Donc les livres de Najib Mahfouz, les livres de Alaa Al-Aswani, Khaled Rassimi, Brahim Sonala, ou même vos livres d'ailleurs dans lesquels vous critiquez le système, ont pu paraître sous Moubarak avec cette notion, ce jeu.
La philosophie qui était prônée par le régime à l'époque, c'était de dire « dites ce que vous avez envie ». Et nous faisons ce que nous avons envie de faire.
Ça a arrangé un peu tout le monde.
Pas tout à fait, ça a arrangé le régime en premier lieu. Parce qu'ils ont constitué une fortune qui se chiffre à des milliards, ils ont pillé le pays. Et au moment voulu, ils intervenaient de manière très violente. À l'époque, j'étais rédacteur en chef et également fondateur de Akhbar al-Adab, donc une revue littéraire très importante. Akhbar al-Adab luttait contre la corruption, non seulement la corruption politique, mais la corruption au niveau social. D'exemple, quand le bateau a coulé, et en fait, dans les eaux égyptiennes, avec 1000 victimes, les réactions les plus virulentes étaient publiées dans Akhbar al-Adab. À la même époque, on avait également publié des textes très courageux aux jeunes qui ont mené cette révolution plus tard.
Donc les jeunes qui ont fait la révolution en 2011 ont été nourris et portés par les écrits de leurs pères, les écrivains Najib Mahfouz, Brahim Abdel Najib, Khaled Rassimi, Brahim Sonala, Alaa Al-Aswani et vous-même. Et donc c'est vous qui avez donc pavé ce chemin de la révolution de vos romans et de vos articles dans la presse. Kamal Hitani, nous allons écouter un extrait de votre livre Musée Gérie, mais avant nous allons faire un petit détour par la librairie Avicenne à Paris, dans le 5e.
Bienvenue à la librairie Avicenne. Je suis Hachem Mouawieh. C'est la première librairie spécialisée sur le monde arabe qui existe en Europe. Et cette librairie-là existe au 25 rue Jussieu, en face de la fac Jussieu. Ses clients, en général, ce sont les chercheurs, arabisants, étudiants. Et depuis 25 ans, on a commencé à avoir de plus en plus un public français large qui est intéressé par la culture arabe. On fait tous les titres Jamal Ghitani, même il a un rayon Jamal Ghitani. On a dizaines de titres en français qui sont toujours disponibles en langue arabe. J'ai tous les écrits de Jamal Ghitani. C'est un grand chercheur dans le domaine du patrimoine classique arabe. Il a dirigé un centre pour rééditer les classiques arabes, parmi lesquels deux versions de Mille et Nuits, l'édition de Berslau et l'édition de McContain, avec une introduction de lui où il a fait hommage au grand spécialiste de Mille et Nuits, Mohsen Mahdi, le professeur à Harvard. C'est quelqu'un qui est connaisseur de la littérature arabe, Jamal Ghitani. Un des livres de Jamal Ghitani, il écrit qu'un jour il est entré avec un prof à la librairie Avicenne et il a découvert un des grands penseurs arabes, Tawhidi, et après il a commencé à faire des études sur Tawhidi via la librairie Avicenne. Ça veut dire qu'Avicenne, elle a donné à Ghitani quelque chose qui est fier, voilà, et nous on est fiers de l'amitié de Jamal Ghitani. Le roman du XXe siècle en littérature arabe, ça reste Stani Barakat. J'ai lu ce roman-là 5 fois. Et une fois, j'ai appelé Jamal Ghitani au Caire et je lui dis, Jamal, écoute, Stani Barakat, c'est le roman du XXe siècle. Et je suis là, toujours. C'est un livre qui m'appelle à le lire et relire plusieurs fois. Je veux parler de la musique de ce livre-là. Moi, j'aime beaucoup le travail sur l'espace. La place où Zayn a été placé, comment il était assis, comment elle était entourée, ses secrets avec l'espace du Caire, comment il prend le regard loin des quartiers, parce que dans tout ça, on le voit dans Zayn Barakat. Parce que Zayn Barakat, c'est un homme mystérieux qui a le pouvoir de contrôler tout le Caire. Et en même temps, il connaît l'espace du Caire, il connaît l'espace sociologique, urbain, et l'espace économique sur lequel il juge des affaires de commerçants. Et Jamal, dans ce roman-là, il nous fait vivre ce Caire-là, ces endroits-là, les commerçants, qu'est-ce qu'ils font. Vous voyez, tout ça, j'adore dans ce livre.
La pudeur du parfum. Chaque femme possède son parfum qui ne ressemble à celui d'aucune autre. Tout au long de ma vie, des arômes magnifiques ont marqué ma mémoire olfactive. Quelques-uns étaient assez puissants pour que je les emporte avec moi, d'autres m'ont fui malgré mes efforts pour les ressusciter. Les attributs humains qui offrent la plus grande résistance à la remémoration sont la voix et l'odeur. Chacune constitue un univers à part entière, chacune affirme une singularité qui répond à une attente spécifique, sachant qu'elle provoque des réactions différentes à chaque étape de la passion. Leur éventail est infini et nous, pauvres humains, ne pouvons que les capter et les savourer. Parmi mes plus anciens souvenirs en la matière figure l'effluve de Aléa, paix à son âme. Ce carnet n'est pas le lieu approprié pour parler d'elle, sachant que je l'ai connue quand j'étais encore enfant et que je l'ai possédée avant même d'être initié aux choses du sexe. Si je la mentionne néanmoins, c'est que s'agissant des effluves féminins, elle reste pour moi une référence absolue. Elle en envoyait des vagues voluptueuses qui la précédaient et la suivaient où qu'elle aille. Son essence ne s'apparentait à rien que la main de l'homme eût jamais produit. C'est elle qui m'a sensibilisé à l'importance de suivre les odeurs à la trace et je me suis dès lors employé à en élucider les secrets. Ses senteurs interagissaient avec le tissu de sa galabiée. Une fine mousseline blanche imprimée de cercles bleus disposés en étoiles qui semblait s'imprégner non seulement du contact direct de sa peau, mais aussi des émanations de son âme. Même les ombres qui la voilaient, les tissus dont elle s'enveloppait, les couvertures dans lesquelles elle s'enroulait, le savon parfumé dont elle se frottait, laissaient leur empreinte sur son corps et les racines de sa vigoureuse chevelure. Cette odeur m'a tellement marqué qu'elle est par la suite devenue un point de comparaison incontournable, même des années après que Aléa nous eut quittés. Sa senteur si singulière, jamais je ne lui ai trouvé d'égal, du moins jusqu'à ce fameux jour où j'ai embarqué pour un voyage en bateau. C'est arrivé quelque part en mer Rouge entre l'île de Giftoun et le port de Hurghada. J'étais en vacances avec mon épouse et mes enfants, et le bateau à double pont sur lequel nous avions effectué une sortie en mer était sur le chemin du retour. Dès l'instant où j'étais monté à bord, j'avais eu l'impression de pénétrer dans une tente invisible saturée de rosée. Je n'ai pas tardé à en identifier l'origine.
Nous marquons 3 minutes de pause, le temps du tour du monde de l'actualité. On se retrouve toujours en compagnie de notre invité, Gamal Hitani.